Bonsoir à tous, bonjour pour ceux qui nous écoutent et bienvenue pour cet épisode 10 de la saison 6 d'Autant du Feu consacré à Koh-Lanta, le totem maudit. Sans plus attendre, je présente l'équipe qui va m'accompagner ce soir pour débriefer cet épisode. D'abord, mon complice neversois, c'est Arnaud. Salut Arnaud.
Salut Damien, comment ça va ?
Bah ça va, écoute, c'était un épisode genre moyen plus quand même, il y a eu des bonnes petites choses. Et toi, t'en as pensé quoi ?
Eh ben, pas mieux.
D'accord.
Bah, voilà, bah, je vais pas trop en dire, sinon on n'aura plus rien à dire après.
Avec nous aussi, on présente plus, c'est Jade. Salut Jade.
Salut Damien, salut tout le monde.
Et Solène, salut Solène.
Bien, bah, écoute, très contente de revenir pour un deuxième épisode cette saison.
Alors, sans plus attendre, je vais vous demander, selon vous, quel a été le joueur ou la joueuse de l'épisode, sans expliquer, sans rien.
Maxime, mais pas pour les raisons à laquelle on pense. Enfin, pas pour les raisons pour lesquelles on définit le meilleur joueur de l'épisode.
Bah, écoute, mais là, SLZ, il me prend par surprise, parce que, clairement, je voulais dire Maxime aussi.
Ah, bah.
pour les mêmes raisons qui ne sont pas les raisons qu'on mentionne normalement. Et pour le coup, je vais trouver quelqu'un d'autre. Du coup, je vais dire Ambre, qui est également pas pour les raisons habituelles, mais pour des raisons de divertissement, qui a été pas mal aussi sur cet épisode. Mais en choix numéro un, j'aurais dit Maxime.
Alors j'allais dire Ambre, mais j'ai déjà dit Ambre la dernière fois et Jade l'a dit, donc je vais mettre un petit double joueur de la semaine, Olga et Luana.
Très bien, alors on va passer tout de suite à l'épisode sans plus tarder, et on a eu pour la première fois depuis un petit moment déjà, on a eu un petit développement stratégique, mais juste avant l'épreuve de confort, ce qui arrive quand même assez rarement, puisque cette saison on les entendait surtout se plaindre ou des conditions climatiques ou de la faim. Et on voit donc Olga qui est extrêmement triste d'avoir perdu son compère Colin lors du dernier conseil, et qui discute avec Yannick en disant « Maintenant, je suis toute seule, ça va tirer à balles réelles, et maintenant, si je peux faire des stratégies, je vais en faire. » Et il parle notamment de viser Luana en se jouant de Maxime. Alors Jade, ce que je voulais te demander, moi, c'est qu'est-ce que tu penses pour l'instant du positionnement d'Olga, justement ? Est-ce que le fait de ne plus être avec Colin va lui laisser les coups des franches pour pouvoir explorer tout un tas de stratégies ? Et est-ce que ça va être intéressant, selon toi, de suivre le développement d'Olga pour la suite de cette saison ?
Pour le coup, ce que j'avais trouvé très cool dans ce début d'épisode, c'est que Olga, bien que très déçue de l'élimination de Colin, n'est pas fermée à la stratégie et très clairement le dit, ce qu'ils ont fait une fois, elle est capable de le faire deux fois pire, et que maintenant, bah, c'était ouvert en fait. Et clairement, cette première séquence, j'avais franchement pas mal apprécié avec Yannick. Déjà, quand on sait d'où ils viennent en fait, donc Yannick et Olga, qui étaient clairement les deux ennemis dans cette équipe jaune, les voir parler stratégie dans un début d'épisode, moi j'ai trouvé ça très cool, surtout que c'est deux candidats que j'apprécie. Et pour le coup, j'ai pas mal rejoint l'analyse de Yannick au début, qui est d'affaiblir donc les rouges progressivement avant d'avoir une ouverture stratégique et potentiellement les faire tomber. Donc oui, clairement, ce début d'épisode, il était plutôt pas mal là-dessus.
C'est très intéressant qu'on ait une sorte d'histoire de vengeance, entre guillemets, avec des grosses guillemets, et qu'il ne soit pas uniquement lié au fait que... qu'il ne soit pas uniquement lié au fait que, oui, les valeurs, etc., Koh-Lanta, blablabla, les valeurs. C'est-à-dire que là, on a un peu une sorte de transformation du personnage de Olga, où effectivement, sur l'épisode précédent, on l'a quitté très très affecté. Et là, j'ai l'impression qu'elle se fait, entre guillemets, un peu une raison de « Ok, bon, ça m'énerve, mais on va continuer. » et c'est vraiment super cool, et ça change un petit peu des histoires de duos ou de groupes qui perdent l'un des membres et qui veulent uniquement venger pour l'honneur de cette personne. Là, on n'avait pas vraiment cette histoire d'honneur de Colin ou quoi que ce soit, donc je trouvais ça vachement intéressant. Et comme Arnaud disait, j'espère que ça va être développé dans les épisodes suivants.
Alors on passe à l'épreuve de confort, qui était une épreuve inédite, je crois, je suis pas sûr qu'elle ait été faite dans les précédentes saisons de Koh-Lanta. C'était une épreuve avec le totem maudit, c'est-à-dire que la malédiction, c'était que les deux derniers chopaient une voix contre eux. Donc ça veut dire que en gros les mêmes malédictions que quand il n'y avait pas de totem maudit, ce qui est toujours utile. Et en fait, il fallait se mettre dans l'eau avec une structure qui était en fait une gouttière qui tenait une boule. Et cette structure, il fallait la tenir d'une seule main, donc la maintenir là où les aventuriers n'avaient pas pied. Et du coup, bah, c'était celui qui restait, qui résistait le plus longtemps, qui remportait cette épreuve. Et alors, une autre chose dont je voulais vous parler, parce que cette épreuve, moi personnellement, je l'ai trouvée assez longue et assez pénible à regarder. Je voulais savoir si vous aviez eu le même ressenti. Et est-ce qu'il n'y aurait pas, grosso modo, un problème de rythme des épreuves cette saison, peut-être dû au fait qu'il faille augmenter, on va dire, le temps de télévision pour avoir les 3 ou 4 coupures publicitaires réglementaires?
Oui, par rapport au rythme de l'épisode, je trouve que c'est vraiment dommage. Parce qu'on a des épreuves, comme tu l'as dit, Damien, qui ne sont pas très télégéniques. Elles ne rendent pas très bien à l'image, c'est des épreuves d'endurance, c'est long. Et de l'autre côté, ensuite, sur la fin de l'épisode, on a vraiment, on a vraiment des gros moments de discussion, de stratégie. On ne sait plus où donner de la tête. Sauf qu'en fait, juste avant ce moment stratégie, on a eu tout le passage d'épreuves de confort, épreuves le confort, la vie sur le camp, la faim, etc. La vie, c'est dur. Et en fait, ça nous a presque sorti un petit peu de la stratégie. Donc au moment où il faut être concentré pour comprendre ce qui se passe, ben en fait, c'est déjà trop tard. L'attention du téléspectateur, elle est déjà plus là, en fait. Et ça, je trouve ça super dommage. Ce choix, en fait, de montrer énormément d'épreuves très très longues, d'épreuves d'endurance qui rendent pas forcément très bien à l'écran, même si le concept, le fait de renouveler une épreuve d'endurance, c'était cool. Mais je trouve que c'était long à suivre malgré tout.
Moi, il y a un truc que j'ai l'impression de répéter à chaque saison. En tout cas, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé sur le podcast ou pas. C'est que je trouve que la production dans ce genre d'épisode, on commence la réunification, t'as un clan jaune, un clan rouge qui semblent s'affronter. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas une épreuve de confort en équipe? Moi, je m'interroge vraiment, pourquoi est-ce qu'ils n'y pensent pas plus souvent? C'est quelque chose qu'on a vu lors des récentes saisons. On l'a vu dans l'île des héros et ça avait d'ailleurs créé une dynamique stratégique hyper intéressante avec Régis, Claude et Jessica. Il y avait eu un plan qui s'était créé parce que justement, les gens étaient séparés. Pourquoi est-ce qu'ils ne reconduisent pas ça plus souvent? Tu fais un tirage au sort, tu divises tes groupes entre deux groupes. Forcément, il y aura un groupe avec des rouges et des jaunes, un autre groupe avec des rouges et des jaunes. Et ça peut créer deux dynamiques qui seraient intéressantes à suivre pour cette épreuve. Surtout que pour une épreuve de confort, j'ai envie de dire, on s'en fiche un peu de qui gagne. La problématique, c'est pas celle d'une épreuve d'immunité. C'est pas, on veut savoir qui est immunisé au conseil. En fait, c'est juste, on veut voir des gens gagner un confort et puis les voir profiter du confort, en fait. Moi, en tout cas, c'est mon ressenti, voir comment ce confort peut influencer le jeu. C'est mon ressenti. Je sais pas si c'est le ressenti de plusieurs personnes, mais je trouve que ça peut apporter énormément de choses. Que ce soit au niveau télégénique, parce que souvent les épreuves où tu as une confrontation entre deux groupes, c'est clairement plus agréable à suivre qu'une épreuve statique où les candidats tombent l'un après l'autre et au final on perd un peu le nord sur qui est éliminé et qui n'est pas dans l'épreuve. Ça peut créer des dynamiques qui seraient super intéressantes parce qu'on peut le dire clairement, le totem maudit, les votes supplémentaires, c'est créé pour donner une certaine dynamique artificielle au conseil de nouveaux enjeux. Et c'est quelque chose qu'on peut totalement avoir juste en divisant les épreuves par équipe pour les conforts. Et moi, je trouve ça dommage, et je le répéterai encore et encore, mais c'est quelque chose qui doit reconduire beaucoup plus souvent. Et ça peut donner des moments super intéressants. Et ça a donné des moments super intéressants quasiment à chaque fois, que ce soit sur les armes secrètes où on a eu Chaos, Lucie, qui s'est réveillée après ne pas avoir été choisie, ou sur l'île des héros, comme j'ai dit plus tôt. Mais clairement, moi, je comprends pas pourquoi ils ne font pas ça plus souvent.
Ouais, c'est vrai que ça nécessiterait peut-être de nouvelles formes, un petit peu comme ça, plutôt que de toujours se fier à la mécanique du vote en moins, enfin du vote contre la personne qui termine dernier. Donc sur cette épreuve, donc c'est François qui gagne, donc on ne va pas s'attarder dessus parce qu'on n'apprécie pas trop le personnage pour des raisons qu'on a déjà développées dans les précédents épisodes. Et François choisit Ambre avec lui et il fait quelque chose quand même d'assez intelligent, c'est-à-dire qu'il la valorise. Et une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que il fait ça parce qu'il l'admire sincèrement ou est-ce qu'il a compris justement que en ayant une alliance des hommes, elles peuvent peut-être avoir l'idée de se retourner contre eux Est-ce qu'il fait ça pour essayer de reconnecter un petit peu avec elle, histoire de s'assurer un contrôle des joueuses féminines de l'équipe rouge?
Moi, je pense que... Alors, on aimerait bien que Françoise soit aussi stratège, hein, bien sûr. Enfin, même si on n'aime pas le personnage, on aime bien qu'il y a de la stratégie. Je pense qu'à mon avis, le raisonnement est un petit peu plus simpliste que ça. Je pense que y a bon, forcément une dynamique d'affinité, de se dire que, OK, François, par rapport à Luana, par exemple, il a beaucoup moins d'affinité avec Luana, il en a quand même plus avec Ambre. Et effectivement, je pense que le principe de choisir une fille rouge permet effectivement de resserrer les liens et de, pas forcément de la manipuler stratégiquement, mais en tout cas de s'assurer qu'elle est toujours dans la même dynamique que lui. Je pense que c'est surtout ça. Parce que ça va pas beaucoup plus loin que ça, malheureusement. Mais on aimerait bien que ce soit un peu plus réfléchi.
Alors, on va passer très très vite sur le confort, hein, parce que bon, ça a été long et assez pénible à regarder. Ils ont mangé des fruits, ils se sont fait masser, bon, tant mieux pour eux. Et je voulais attirer un petit peu votre attention sur des scènes post-confort, donc sur le camp réunifié, où on assiste encore une fois à quelque chose à un arc narratif qui est présent depuis plusieurs épisodes, sont les tensions entre Maxime et Luana. Maxime, qui a l'air toujours aussi obsédé par la bouffe, et qui... Et Luana en a marre, hein, tout simplement, elle le dit, et à chaque fois, elle l'appelle Mister Relou, et Maxime, c'est un personnage qui a l'air de pas se rendre compte, vraiment, de ce qui se passe autour de lui, parce qu'il dit, oui, il y a des tensions, voilà, c'est pas grave, on s'en fiche, bon, ça arrive. Et en fait, socialement, il est complètement à la ramasse, quoi. Et en fait, on se rend compte qu'il agace de plus en plus les gens. Je vais demander à Arnaud, toi, le personnage de Maxime, tout simplement, de ce qu'on a vu pour l'instant, à ce moment de l'épisode.
Est-ce que je me redis j'ai l'impression de m'acharner après ce pauvre garçon. Oui, ça, je peux comprendre que son comportement puisse agacer. Voilà, j'ai l'impression de... C'est Luana, c'est ça, hein, qui l'a un petit peu dans le viseur.
Oui. C'est Luana, oui.
Elle et pas que elle. Et pas qu'elle, en fait. Il y a plusieurs personnes qui ont Maxime dans son viseur, mais c'est clairement Luana et Ambre qui sont montrées en priorité en ce qui concerne.
Je ferai un parallèle, j'ai l'impression que Luana est avec Maxime ce que Emma est avec moi.
Il y a quelque chose à prendre positivement.
Une petite dédicace à Emma qui nous écoute. J'espère qu'elle nous écoute, elle a intérêt. Non, mais voilà, je peux comprendre que son comportement agace un petit peu. Il est toujours un petit peu trop sûr de lui, etc. Et apparemment, la nourriture, comme tu dis, Damien. Ah, voilà, Koh-Lanta, la nourriture, c'est un petit peu le nerf de la guerre et faut savoir être conciliant, même si on a un estomac qui est capricieux. On le voit avec le manioc qui disparaît dans la nuit. Bon, on peut supposer qu'il y a un singe qui soit passé par là ou une autre bestiole. Et tout de suite, il a été tricard. Voilà, il a un comportement qui divise, ce qui le met un petit peu en difficulté, même pour son aventure. On voit qu'il est souvent visé. Et socialement, bah, quand t'as un comportement comme ça qui déplaît beaucoup, bah, forcément, ça peut créer quelque chose autour de toi de très négatif, de très néfaste. Donc, Est-ce que il arrivera à s'en sortir et aller jusqu'au bout comme ça? Ça peut être compliqué pour lui.
Moi, je pense surtout que c'est un fusible pour l'équipe rouge, que globalement, vu la direction que prend l'équipe rouge, l'idée, c'est quand même d'éliminer en priorité des jaunes, mais si on peut éliminer Maxime sur le chemin, c'est pas plus mal. J'ai l'impression que c'est plutôt ça, c'est plutôt un fusible pour son équipe. Si jamais, voilà, les binômes tombent d'une certaine façon ou je sais pas quoi d'autre qu'il se passe dans le jeu pour que on puisse pas voter un jaune, et ben on pourra voter Maxime au moins.
Pour le coup, Maxime, c'est un joueur qui n'est pas très bon socialement, il agace, même il a pas conscience vraiment de tout ça et il a pas conscience de ce qui se dit autour de lui, mais heureusement qu'il est là quand même, surtout pour ses débuts d'épisode. À chaque fois, c'est Maxime qui nous permet d'avoir du contenu et de pas juste avoir des banalités qui sont là présentes entre chaque confort et chaque immunité. Heureusement qu'il est là pour créer une sorte de dynamique, une sorte de storyline. Et franchement, c'est un des meilleurs personnages là-dessus. Certes, c'est pas un très bon joueur, mais forcément, au moins, il est pas 10. Il apporte quelque chose. Et pour le coup, franchement, moi, je dis heureusement qu'il est là. Et c'est pour ça que je voulais le mettre en joueur de l'épisode, parce que je pense que sans lui, on a un épisode qui est 20 fois moins bon aujourd'hui. Et pour le coup, je trouve que c'est des personnages qui font du bien à Koh-Lanta malgré tout. Surtout dans des saisons où on a beaucoup de personnages qui sont lisses, etc. Le fait d'avoir des Maximes, ça permet à des personnages de se mettre en avant. Luana, Ambre qui se plaignent de lui, donc forcément aussi ça leur donne du contenu. Et derrière, t'as toutes les portes stratégiques qui s'ouvrent parce que le mec est trop naze. Donc clairement, merci Maxime. Et merci d'avoir rendu la première heure et demie de Koh-Lanta de ce soir un peu intéressante.
Jette qui vient de recevoir la carte de fanboy de Maxime.
Je suis pas fanboy, c'est juste que j'ai du mal avec les personnages qui sont lisses. Et forcément, quand quelqu'un n'est pas lisse, moi, je le souligne. Qu'il soit bon en stratégie ou mauvais, ça fait quand même du bien, quoi.
D'ailleurs aussi, petite chose que j'ai oublié de dire, hein, mes excuses, c'est que pour le confort, en fait, j'avais dit qu'il y avait deux personnes qui avaient un vote contre elles au prochain conseil. Ces deux personnes, c'était Fouzi et Yannick, et on va voir que ça a une incidence sur la suite du jeu. On va passer tout de suite à l'épreuve d'immunité, alors qui était une épreuve qu'on avait déjà vue déjà dans des précédentes saisons, qui est toujours une épreuve qui est éliminatoire. C'est, en général, quand il y a une épreuve éliminatoire, elle est toujours dans les parages, celle-ci, il y a un grappin, des palets, avec le grappin, tu ramènes les palets. Hein, c'est extrêmement simple. Et voilà. On va dire, dans cette épreuve, bon, c'est encore François qui a gagné, voilà, on ne va pas s'attarder dessus.
Il est immunisé.
Ouais.
C'est, ce qui est important, parce que dans la vraie vie, il n'est pas immunisé judiciairement. Toujours bon de le rappeler.
Oui, c'est vrai, c'est à chaque épisode, il faut qu'on le dise, ça. Et comme qui a dit épreuve éliminatoire, a dit que là, c'est on perd quelqu'un et on perd Pauline. Alors, Pauline, en général, on sait au montage quand quelqu'un a un arc narratif un petit peu discret, c'est en général ou qui saute sur collier ou qui se fait éliminer lors d'une épreuve éliminatoire. Ça n'a pas raté parce que la pauvre Pauline, à part un portrait qui fait mal au cœur pour elle, parce que la pauvre, elle a dû abandonner sa carrière dans le sport automobile pour se consacrer à celle de son frère, et en plus, elle fait ses réseaux sociaux. Enfin, j'ai trouvé ça...
La souriante en temps moderne.
Voilà, c'est très limite.
Ouais, non, c'est horrible pour elle, quoi. Je la plains. Enfin, je pense qu'on la plaint. Et du coup, qu'est-ce que vous retiendrez, vous, de Pauline sur cette saison? C'est vrai qu'on l'a assez peu vue. Qu'est-ce que vous retiendrez un petit peu de son personnage, de peut-être ce qu'elle a apporté, même si on n'a pas vu grand-chose?
Elle était là, quoi. Elle était là, elle avait un ou deux confessionnaux par épisode. On sentait qu'elle essayait d'apporter une petite énergie, mais bon, elle n'était pas très intéressante. Clairement, quand ses confesses passaient... Moi, j'étais pas très intéressé, j'étais pas très emballé. Stratégiquement, elle apportait pas grand-chose. Même au début du jeu, elle était limite absente. Elle récoltait un bracelet noir qui aurait une petite incidence, mais même là, on a très peu son point de vue. Enfin, franchement, Pauline, j'ai pas envie de dire que c'est la plus grosse perte. Après, je me doute que son montage est dû à sa défaite à l'épreuve, mais clairement, je vais pas non plus pleurer parce que c'est elle qui est sortie, quoi. Il y avait clairement pire comme scénario.
C'est juste dommage qu'elle sorte sur l'épisode où elle tente quelque chose stratégiquement. C'est-à-dire que ça dure à tout casser 5 minutes. Elle essaye de se placer stratégiquement, d'essayer de comprendre ce que veulent les filles jaunes. Ça dure vraiment 5 minutes et c'est vraiment triste. C'est comme le chant du cygne et ensuite elle part après, quoi. Malheureusement, c'est tout ce qu'on a vu stratégiquement d'elle, quoi.
Ouais, bah, moi la seule chose dont je retiens de Pauline, c'est sa chanson Allô le monde, sortie il y a 15 ans de ça, c'est tout.
Une référence des plus.
Voilà.
Le truc par rapport à l'élimination de Pauline, c'est que ça rebat les cartes chez les rouges qui avaient une majorité numérique assez confortable. Elle est un petit peu moins confortable maintenant, puisqu'on passe 8-5 à 7-5. Et ça rebat peut-être un petit peu les cartes stratégiquement.
Bah, disons que la bascule peut être plus facile pour les jaunes, parce qu'il y a Olga qui a toujours le double vote, donc c'est plus vraiment 7-5, mais c'est 7-6 au niveau du des votes en tout cas. Après, suffit d'avoir un rouge qui se rallie, je sais pas, peut-être quelqu'un qui est mal vu de son côté, au hasard Maxime, ça peut créer soit une égalité et un revote ou faire basculer encore une autre personne. Voilà. Le rapport de force est un peu plus équilibré, donc c'est toujours plus intéressant. C'est vrai que on a déjà eu des épreuves éliminatoires où l'équipe qui était déjà en minorité se retrouve encore plus en minorité parce que l'un de leurs joueurs a été éliminé. Là, ça rééquilibre un petit peu, ça peut ouvrir à quelque chose de plus intéressant à suivre, un jeu moins fermé. Et ça peut éviter ce qu'on appelle, nous dans le jargon, un pagonging, hein, c'est-à-dire une équipe qui écrase l'autre. Voilà, c'est tant mieux. C'est le seul bénéfice qu'on a de l'épreuve éliminatoire. Ça, et puis le fait que ce soit quelqu'un de plutôt... qui n'a pas été très marquante au niveau du jeu qui a été éliminé. C'était l'autre bénéfice, mais... Le gros plus, c'est ce rééquilibrage un petit peu des rapports de force qui, on espère, sera payant pour la suite.
Moi, où je suis pas d'accord, c'est que les épreuves éliminatoires, tu peux dire oui, ça rééquilibre les choses, mais ça facilite aussi la tâche à l'équipe qui est majoritaire.
Ah, c'est sûr.
Parce que quand ils sont 8, ils doivent éliminer 3 personnes avant la fin. Donc forcément, il peut y avoir des tensions qui se créent. Là, je suis désolé, ils sont 7, alors que dans leur équipe, il y a Maxime. Donc là, il y a une seule personne parmi les rouges à éliminer, et puis ils sont tranquilles, vraiment. Une configuration au binôme qui les arrange, l'un d'entre eux sort, ensuite, ils ont leur groupe de 5 qui est solide, ils éliminent Maxime, ils sont 5, ils vont jusqu'au bout. Et au pire, s'il y a encore une personne qui sort sur épreuve éliminatoire, ils récupèrent Nicolas, ils ont leur groupe de 5 tranquillement. Et ça, c'est un symptôme qu'on voit de plus en plus souvent lors des saisons récentes. C'est-à-dire que quand on a 2 épreuves ou 3 épreuves éliminatoires, on a une orientation à 5 et qu'on a des binômes, quel intérêt d'éliminer ou de réfléchir à ta position dans ton groupe lors d'un conseil classique? Parce qu'à tout moment, quelqu'un sort lors d'une épreuve, tu passes de éliminé à confortablement en orientation et là, tu as toutes tes chances de gagner. Alors que si tu fais ton coup comme certains ont pu faire, notamment Vincent, derrière, tu te retrouves dans la merde parce que tu as perdu ta position confortable et maintenant tu dois batailler et puis les gens que tu as rejoints, ils ont leur position confortable et ils vont pas la lâcher. Et le fait d'avoir autant d'éliminations qui se font hors conseil, ça diminue en fait pour moi l'importance de ton placement au sein de ton alliance et ça favorise plus le fait de tout simplement avoir une majorité. Si t'as une majorité, c'est bon, t'as gagné. Et c'est pas ça qu'on veut. Moi j'ai envie de voir un mec qui se dit je suis en majorité. Mais merde, quoi, je suis le 6e ou le 5e de cette majorité. Est-ce que j'ai intérêt à rester dans cette majorité? Et tant que la réponse rationnelle restera oui, grâce à ces épreuves éliminatoires, le jeu n'en deviendra pas intéressant. Et moi, je trouve ça dommage.
Complètement d'accord. Pour le coup, je trouve qu'on l'a un tout petit peu vu sur les armes secrètes, comme tu dis, Jade, avec Vincent. Et je pense que, effectivement, c'était, entre guillemets, une piste à creuser. Et je pense que c'était peut-être plutôt inhérent à sa façon de jouer, à Vincent, le fait de vouloir renverser son alliance initiale, etc. Et je pense que malheureusement, c'est quelque chose qui dépend trop des joueurs et pas des conditions du jeu.
Alors, justement, vous m'offrez une très bonne perche pour la partie qui a été la plus intéressante de cet épisode. 2 épisodes de suite où l'avant-conseil est très intéressant stratégiquement, avec des stratégies un petit peu dans tous les sens, et là, ça ne déroge pas la règle. Donc on commence par chez les Rouges plus Nicolas, donc Nicolas qui fait toujours un petit peu double jeu. Les deux évoquent le vote Yannick et Maxime, mais par contre François ne veut pas voter contre Maxime. C'est là qu'on voit aussi que le vote supplémentaire a une grande importance. C'est vrai que souvent le vote noir, et on n'a jamais vu vraiment de gros renversements de situation grâce au vote noir, mais là cette fois-ci, il fallait compter et la voix contre Yannick, et la voix contre Fouzi, et le double vote d'Olga, ce qui faisait que on pouvait s'attendre à un conseil qui aurait été plein de surprises.
Le fait qu'il y ait eu l'éliminé côté ex-rouge, ça rééquilibre un petit peu les forces, donc ça donnait une force supplémentaire au groupe des anciens jaunes. Donc, pour le coup, il aurait pu être utile. On a souvent vu que bon, des fois, le vote noir était un petit peu, généralement, on le donne à celui avec qui on a fait la plus grande partie de l'aventure, celui qui notre allié qui était le plus en danger. Voilà. Moi, je suis pas réellement fan du vote noir tel qu'il est fait chez nous, c'est-à-dire que à la fin du conseil, on dit à tout le monde. Voilà, je donne mon vote noir à un tel. J'aurais plus été partisan je vais voter moi-même comme ça se faisait au début. Là, c'était plus intéressant parce que ça permettait d'avoir un petit doute encore sur ce qui pouvait sur le nom qui pouvait être mis. Si jamais tu viens à sortir que tu sais que tu vas sortir, tu peux dire à tes alliés, voilà. Je vais voter un tel, comme ça, si je saute au prochain conseil, essayez de le faire sauter. Là, on sait tout de suite que c'est Olga qui a la double voix, donc ça donne une force supplémentaire et ça permet, aux rouges de pouvoir contrer ça plus facilement. Donc, je suis moins fan du vote noir tel qu'il est fait chez nous à Koh-Lanta plutôt qu'à Survivor où c'est voté par l'éliminé directement ou comme c'était fait au début du vote noir à l'époque de Rajampat, je crois.
Alors, je pense que plus que le vote noir en lui-même, à mon avis, c'est surtout la conséquence du totem maudit qui a fait qui a déterminé les cibles. Et ce qu'on a oublié de mentionner sur cette réflexion chez les Rouges, c'est surtout que Fousi est touché, et Fousi qui est vraiment très bien placé dans l'Alliance Rouge, qui est vraiment un élément central chez les hommes rouges, et donc en fait, c'est à mon avis ce qui fait que ça s'affole du côté rouge. C'est-à-dire que si c'était Maxime qui avait un vote en plus, je pense que ça se serait pas autant affolé que ça, tandis que là c'est Fousi, et donc il y a une possibilité très sérieuse que Fousi sorte. Si on est un petit peu raisonnable, on sait très bien que les jaunes vont pas se risquer à faire ça, mais il y a une possibilité, quoi. Donc je pense que c'est plutôt le vote, entre guillemets, du totem maudit que le vote noir qui a eu vraiment une grosse importance dans cet épisode.
Pour l'instant, aussi, je vais enchaîner sur un personnage dont on a assez peu parlé ces derniers temps, parce qu'on le voit peu en épreuve, on le voit assez peu, même tout court. C'est Jean-Charles. Jean-Charles qu'on aimait bien au début de la saison, parce que c'est vrai qu'il apportait quelque chose, c'est un mec tranquille, nature, qui fait son truc. Mais on s'aperçoit que, comme beaucoup, il capte rien nos stratégies, et surtout qu'il est là, qui suit, mais il le dit lui-même que du coup, il est complètement paumé. Arnaud, toi, le personnage de Jean-Charles, toi, pareil, est-ce que tu penses qu'il peut nous surprendre encore, ou est-ce que tu penses que c'est un dead end qui va têche peut-être sur une prochaine épreuve éliminatoire.
Oh au niveau de l'insignifiance, il y avait un concours avec Pauline, pour le coup. Il capte rien. C'est le seul mec qui vote encore par affinité, enfin qui veut voter encore par affinité après la réunification. Tant pis pour le jeu. Et il m'inspire pas grand-chose. Il est là, c'est bien. Des fois, je le confonds avec le totem. En fait, non, c'est bien un candidat. J'ai pas un avis hyper constructif sur Jean-Charles. Je pense pas qu'il va nous surprendre à moins qu'il soit touché par la grâce. Mais je le crois aussi fort que Paris qui va gagner la Ligue des Champions cette année, quoi.
Mais Jean-Charles, surtout, c'est un peu un soufflé, en fait. Épisode 1, il avait eu des réflexions sociales assez intéressantes, notamment par rapport à l'harmonie de l'équipe, etc., le fait d'avoir une cohésion d'équipe. Il avait eu ce petit moment-là qui était intéressant, où on s'était tous un peu emballés, comme « Waouh, trop bien !» Et depuis, en fait, voilà, quoi. Depuis, c'est beaucoup de désillusions sur les épreuves, notamment l'épreuve du radeau, dont on se souvient, où Jean-Charles n'en faisait vraiment pas une.
Ah, le partisan du moindre effort.
C'est ça. Et puis, depuis, il est paumé, quoi. Il est perdu. Donc, en fait, il a eu un petit éclair de génie en début de saison, et depuis, pas trop quoi en faire, quoi. Même, je pense que le montage ne sait pas trop quoi en faire non plus.
Bah, c'est ça, c'est...
Et même, je pense que vraiment, les monteurs ne savent pas forcément trop comment le représenter non plus, parce qu'on a eu plusieurs épisodes où il n'était pas vraiment là. Et là, il revient un petit peu, mais en même temps, non. C'est un peu étrange, ce...
C'est la plante qu'on t'offre, qu'on a achetée à Nature et Découverte, et tu sais pas où la mettre. Et ben c'est ça, c'est Jean-Charles. La plante, on l'appellera ben, Jean-Charles.
Mais parce que, par exemple, Fuzzy, on parle beaucoup de Fuzzy en disant que... Enfin, on n'en parle pas beaucoup dans les podcasts, mais il y a beaucoup de discussions autour de Fuzzy comme étant quelqu'un qui est là que pour faire des confessionnaux à base de généralité. Et la win, c'est bien. La lose, c'est nul. Mais moi, je me dis peut-être qu'il y a une raison de montrer autant Fuzzy. C'est sûrement que Fuzzy va assez loin. Il va peut-être gagner des immunités individuelles pendant la suite. Jean-Charles, bon, vu ce qu'on nous montre de lui, effectivement, comme dit Arnaud, on peut peut-être s'attendre à ce qu'il soit éliminé à la prochaine épreuve éliminatoire, vu ses performances médiocres aux épreuves, quoi. Je ne sais pas trop quoi... Voilà, on ne sait pas trop quoi faire de Jean-Charles.
Et de l'autre côté du spectre, on va dire des candidats qui nous intéressent, bah, tout en haut, il y a Ambre. Alors Ambre, on lui tresse des lauriers depuis le début de la saison, parce que c'est vrai que c'est une candidate qui est un des meilleurs personnages, c'est une candidate hyper intéressante, très bien placée chez les Rouges. Et là, encore une fois, elle prend un peu les choses en main, puisque elle apprend que les votes se dirigent vers Yannick, qui a une voix en plus. Sauf que, en fait, on se rend compte qu'elle veut absolument pas que Yannick parte parce que elle a une très bonne relation avec lui. Alors, c'est une relation qui a pas beaucoup été montrée. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu dommage qu'on nous le dise que maintenant. Mais elle part ensuite en campagne de son côté pour essayer de trouver un autre terrain d'entente, peut-être un peu sur Maxime. Vous auriez aimé, vous, justement, qu'il y ait un petit peu plus de développement là-dessus. Et qu'est-ce que vous pensez du jeu d'Ambre jusqu'ici? On va demander à Jade.
Bah pour le coup, clairement, la relation Yannick-Ambre, elle sort un peu de nulle part. On a un petit flashback, montage un peu chelou qui montre Yannick tout content et qui fait des gestes dans cette équipe. C'était l'équipe violette,
oui,
c'est ça, au début. Bon, pour nous expliquer qu'en gros, Yannick était trop cool chez les violets et que du coup, Ambre ne voulait pas le sortir. Mais ça aurait été intéressant de montrer un peu ça au début. Après, oui, c'est clair qu'il y avait quand même pas mal de contenu dans l'équipe violette, donc je peux comprendre aussi que certaines choses étaient privilégiées à l'époque. Mais du coup, ça sort un peu de nulle part. Et moi, je comprends totalement sa réflexion à Ambre, parce que Ambre, elle n'est pas menacée. Déjà, de 1, c'est pas la cible. Puis, quel intérêt d'éliminer Yannick quand derrière, le mec, il est nul aux épreuves. À chaque fois qu'il y a un vote supplémentaire, c'est lui qui va le prendre. Il ne peut pas gagner d'épreuves. Stratégiquement, c'est pas la force brute. C'est un mec qui est assez exposé. Donc pourquoi pas, je crois que lors de l'épisode, elle propose le nom de Bastien, et quand elle avait prononcé le nom de Bastien, j'étais en mode « Allez, let's go j'espère les gens vont l'assurer et tout, parce que Bastien, à ce moment-là, il faisait un peu rien. Et moi, je préfère clairement Yannick. Donc quand elle lui dit le nom de Bastien, j'étais vraiment hyper hypé, en mode « C'est la meilleure chose à faire !» Bon, finalement, ça se fait pas, ça se dirige plus vers Maxime. Et c'est là où je trouve que Ambre joue mal, et c'est que en fait, sa relation avec Maxime, et ça vaut aussi pour Luana, et c'est plus Luana qui va se prendre le retour du bâton là-dessus par la suite, c'est que vraiment, on sent qu'elles ne veulent pas travailler avec Maxime. Et dans un monde normal, Maxime doit le sentir et doit réagir. Là, elles ont la chance que Maxime ne réagisse pas. Mais dans un monde normal, leur gestion de la relation avec Maxime, elle est catastrophique. T'es pas censé montrer à l'équipe adverse à quel point tu détestes quelqu'un de ton équipe. Et c'est ce que je trouve dommage, c'est qu'elle a pas été assez discrète là-dessus, elle a vraiment montré toutes ses cartes, et ça aurait pu lui retomber sur la figure. Heureusement, ça lui retombe pas dessus, mais là-dessus, c'était mal joué, clairement. Mais sinon, en total, Ambre, c'est clairement un personnage qui est super intéressant, elle a de super punchlines, surtout par rapport à Maxime, et moi, c'est une candidate que j'adore suivre pour l'instant.
Et puis, ses justifications sur le vote de Yannick et sur le vote de Bastien sont hyper cohérentes aussi. C'est vraiment pas juste une histoire de « j'essaie de sauver la peau de mon pote », je trouve tout et n'importe quoi ». C'est-à-dire que vraiment, elle met l'argument des épreuves pour... Comment dire, elle sait comment convaincre les hommes rouges qui cherchent à performer sur les épreuves en disant « Mais regardez, Yannick, il ne perd pas aux épreuves, on fait tous mieux que lui, donc à quoi ça sert de le virer ?» Parce que de toute façon, ça ne va pas vous aider à gagner des immunités, quoi. Et là-dessus, elle sait jouer sur la bonne corde par rapport aux bonnes personnes.
Non, c'est vrai que c'était très, très intelligent de la part d'Ambre qui nous a habitués à ça depuis le début de la saison. Donc les jaunes, de leur côté, essayent de rassurer les rouges et de se mettre d'accord un petit peu sur un vote Maxime. Parce qu'on voit que Maxime est vraiment... on sent que les rouges peuvent se séparer de Maxime sans aucun souci. Puis ils essayent un petit peu de les rassurer dans ce sens. Donc on se dit, bon, on va avoir une belle surprise. Mais attention, il y a un retournement de situation. C'est qu'Anne-Sophie est très méfiante chez les jaunes, chez les ex-jaunes. Et elle propose de faire une stratégie justement pour que certaines filles rouges votent Maxime, que d'autres votent Yannick et que eux, de leur côté, ils aient les coudes franches pour pouvoir voter Louana, qui est une joueuse extrêmement bien placée chez les rouges. Donc, une très bonne stratégie. Enfin, j'ai trouvé. Mais après, c'est l'exécution qui a péché, puisque Bastien il s'est réveillé au bout de 25 jours en se disant « Oh bah tiens, je vais essayer de faire de la stratégie. » est allé voir Maxime pour lui dire « Écoute, voilà, il va y avoir des votes contre toi, donc sois tranquille. Nous, en fait, on est à toi, si tu nous joins, bah du coup, on vote Louana. » Sauf que cet idiot de Maxime, qui se rendait absolument pas compte de sa position, bah ce con a été tout raconté ensuite. Et du coup, je sais qu'on n'était pas forcément d'accord avec ça en regardant l'épisode, donc j'ai hâte de voir vos avis à tous les trois. Est-ce que vous pensez déjà que la strat d'Anne-Sophie était bonne? Est-ce que c'était une bonne idée? Et deuxièmement, est-ce que Bastia a bien fait d'aller voir Maxime pour lui proposer cette stratégie?
Moi, pour le coup, je trouve que la stratégie d'Anne-Sophie, dans le fond, elle est très intelligente. Après, je pense que dans tous les cas, le vote n'aurait pas fonctionné pour une simple et bonne raison, c'est qu'il compte sur Nicolas. Et Nicolas, il n'aurait pas mis le nom de Louana parce que Nicolas, c'est un vert et Nicolas, il est solide et Nicolas, il est loyal. Il aurait juste répété le plan et ça aurait été Yannick qui aurait été ciblé au final. Donc, dans tous les cas, moi, en tout cas, à mon avis, le plan n'aurait pas fonctionné. Maintenant, dans l'idée, c'est clairement la chose à faire. Ça sert à rien d'éliminer Maxime qui du coup, est tout en bas dans l'Alliance Rouge et plutôt éliminer quelqu'un qui, est très bien placé pour fragmenter cette équipe rouge et tenter de prendre le dessus. C'est clairement la chose à faire théoriquement. Et Bastien, ce qu'il fait aussi théoriquement, c'est pas bête, c'est qu'il va parler au gars qui, justement, est tout en bas donc dans cette équipe rouge pour le récupérer de son côté en étant honnête avec lui, en lui disant « Mec, il y a des gens dans ton équipe, ils parlent derrière ton dos, j'aime pas ça, viens nous rejoindre, tu seras safe avec nous alors que de leur côté, ton nom, il est mentionné tout le temps. » Théoriquement, c'est pas bête. Le truc, c'est que tu as parlé à un Maxime qui du coup comprend rien en fait. Maxime, il comprend rien. Et vraiment, je comprends pas comment le mec a pu se dire je me prends full remarque à chaque fois sur la bouffe.
Mais à aucun moment je vais être visé.
Peut-être que ce que dit Bastien est vrai. Non, le mec se dit bah Bastien, il me dit n'importe quoi, il vient avec ses sabots taille XXL 55, franchement, il dit n'importe quoi, et il va dans la forêt pour révéler le truc aux rouges. Et le pire, c'est que les rouges, la première minute, ils se disent mais il raconte de la merde. C'est pour montrer à quel point c'est débile ce qu'il fait. Genre, même en étant full honnête avec l'équipe rouge, le mec, personne ne croit. Mais pourquoi est-ce que ce mec vote encore avec son équipe? C'est vraiment qu'il a une conscience sociale zéro. Genre, vraiment, c'est catastrophique. Je comprends pas comment c'est possible. Et clairement, c'est dommage pour Yannick qui, pour le coup, se prend le revers du bâton à cause de ça. Parce qu'un mec est pas foutu de comprendre que les gens veulent l'éliminer. Alors qu'il y a tout porte à comprendre que
c'est-à-dire
c'est le cas,
que
en fait.
La moitié des scènes de camp sont quand même consacrées à les filles rouges qui en ont marre de Maxime, quand même.
Mais oui, genre le mec, on l'appelle Mister Relou, à aucun moment il se dit. Ah, c'est tranquille. Non, Bastien doit mytho. Surtout, tu te dis Bastien, quoi. Genre, le mec, il a zéro notion stratégique et tout. Tu te dis, ah, le mec, il invente un truc. Moi, franchement, un mec comme Bastien me dit quelque chose. Je me dis, bah, il dit la vérité. Un mec comme Bastien, tu te dis pas, le mec, il est sournois, il ment, etc. Enfin, je comprends pas le raisonnement et le cheminement qu'a suivi Maxime pour arriver à la conclusion, je dois voter avec les rouges ce soir. Et le pire, c'est qu'il s'en rend compte au conseil en mode « Ah, bah peut-être que Maxime avait dit la vérité. » Bah, bien sûr qu'il avait dit la vérité.
Le plus drôle, c'est qu'il s'en rend compte quand Louane lui dit que c'était vrai qu'il était dans leur viseur.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il attend la confirmation orale de Louane quand même.
C'est fou. Franchement, c'est fou.
Et d'ailleurs, on a eu une scène qui avait l'air un petit peu anecdotique, c'est-à-dire qu'il y a de la bouffe qui a disparu sur le camp, et le premier qu'on accuse, c'est Maxime, alors que, visiblement, il n'y est pour rien.
Bah, c'est toujours ça, hein. Le mec, il y a vraiment 20 000 signes qui montrent que son équipe en peut plus. Mais vraiment, ils en
peuvent plus. Et lui, son analyse, d'ailleurs, c'est son analyse de ça, c'est dans Koh-Lanta, tout est possible pour les reproches. Tout est. Alors, j'ai plus la phrase en tête exacte, mais il dit quelque chose du style. En disant tout est passible, voilà.
Ouais, tout est bon pour reprocher quelque chose.
Et toi,
aux gens.
Tu regardes ça, tu te dis, mais frérot, il n'y a que à toi qui reproche ce genre de truc. Effectivement, dans Koh-Lanta, tout est passible de reproche, mais quand c'est toi qui te prends tous les reproches, c'est pas bon signe. C'est pas une bonne idée.
C'est ça. Clairement, le mec. Après on n'a pas accès à toutes les scènes, mais je pense quand même que pour qu'on nous montre que Maxime, et qu'il y a facile 70% des dynamiques par rapport à la bouffe et par rapport aux reproches qui le concernent.
Et d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que Maxime va voir chez les Rouges pour leur dire il y a une strat contre vous, contre Louana, vite, vite, vite. Et qu'au départ, que ce soit Ambre comme Louana, elle ne le croit pas. Elle dit mais qu'est-ce qu'il raconte encore ce guignol, quoi.
La drama queen.
La drama queen.
C'est-à-dire, on en est là, c'est-à-dire que le mec est vraiment, voilà, c'est vraiment personne ne le prend au sérieux, même si en plus il a raison, quoi. Je sais pas s'il y a déjà eu par le passé, je vais vous demander à tous si vous avez des candidats comme ça qui n'avaient aucune conscience sociale comme ça de leur place dans l'équipe et tout. Genre, moi je pensais peut-être à Adrien, Décater qui voulait faire un peu le stratège mais que tout le monde détestait. Est-ce que vous avez d'autres exemples comme ça un petit peu?
Après, Adrien avait quand même conscience un minimum qu'il était pas au top socialement de son équipe. Et c'est pour ça qu'il était très paniqué à l'idée de voir Diane débarquer dans son équipe. Mais c'est vrai que Maxime, tel quel, je ne sais pas s'il y a déjà eu quelqu'un du genre, en fait.
On nous propose Maxime de la garde des chefs.
Franchement, je ne sais pas.
J'ai peu de souvenirs de Maxime de la garde des chefs, mais...
C'est un peu différent. Moi je trouve que c'est un peu différent pour Maxime de la garde des chefs. Franchement, c'est un peu différent. C'est un mec qui, pour moi, était quand même conscient qu'il n'était pas au top de son équipe et il savait qu'il devait gagner des immunités, etc. Là, Maxime, je pense qu'il sent quand même qu'il était protégé par son équipe et que
les rouges jusqu'au bout et mes bêtises. Maxime, mais... de la garde des chefs, c'est plutôt sur la deuxième moitié de la réunification.
Ouais.
Enfin, plutôt sur la mi-réunification, tandis que là, on est vraiment épisode 2, post-réunification, et c'est déjà Maxime qui est visé, quoi.
Alors, du coup, fatalement, les rouges se rendent compte que du coup, on essaie de leur mettre à l'envers. Et lors du conseil, ils éliminent Yannick. Et aussi, donc, au final, on se dit dommage parce que Yannick, il a tout eu contre lui. Il n'était pas bon sur les épreuves. Il s'est pris et les bracelets, et les dernières places, et les votes contre lui. Là, pour le coup, c'est un peu la fin. Qu'est-ce que vous allez retenir de ce candidat pour l'instant? C'est vrai qu'il il avait donné quelques affrontements un peu sympas, notamment avec Olga. C'est quelqu'un qui voulait être un peu un leader d'équipe, qu'il n'a pas forcément été. C'est vrai qu'on pouvait attendre peut-être d'autres performances sur les épreuves, mais aussi je pense que quelqu'un de quand même qui restait quand même assez sympathique, qui est un sympathique personnage de cette saison pour l'instant. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça.
Ouais, je suis assez d'accord. Il a une phase où il était, tu l'as dit, avec Olga par exemple, où ça a été un petit peu, je sais pas, il était montré un petit peu négativement, mais au final, il semblait assez joueur, il avait plutôt une bonne analyse du jeu. Bon, sauf quand on lui faisait croire qu'on avait trouvé un collier où il croyait bête et ongle, mais bec et ongle, pardon, et non pas bête et ongle, ça veut rien dire. Mais dans l'ensemble, voilà, il était plutôt agréable. Le bon camarade d'infortune. Et avec qui, bah voilà, tu pouvais jouer, tu pouvais parce qu'il était au milieu de la strat aussi sur cet épisode. Bon, notamment parce qu'il était visé, mais quand même il était pas réfractaire à ça. Donc ça a été assez plaisant au final de le voir jouer. Donc si dans un futur ils veulent refaire des All-Stars, ce serait pas désagréable de le revoir. Donc non, plutôt bonne surprise. J'étais assez pessimiste, mais bonne surprise au final.
Bah, c'est un personnage avec des contrastes, je trouve, en fait. Et comme dit Arnaud, au début, on n'était pas emballés. Et au fur et à mesure des épisodes, avec chaque épisode qui passait, on découvrait une autre facette. On découvrait un Yannick plus joueur, un Yannick qui certes, va au conflit, qui certes a des conflits, mais qui sait aussi être plus posé et savoir rassembler son équipe, en tout cas de ce qu'on a vu. Et effectivement, j'ai l'impression qu'il y a eu un gros problème sur les épreuves, dans le sens où c'était quelqu'un que très vite les gens ont vu comme un atout, alors qu'en fait, sur les épreuves, en tout cas sur la sélection d'épreuves qu'a proposé cette saison, le gabarit de Yannick n'était pas forcément le meilleur pour ce genre d'épreuve. Donc au final, c'est un peu une déception de ce côté-là, quoi.
Je vais faire un parallèle avec un. Je suis pas comme Gino, je vais pas faire un parallèle avec le catch parce que je me préserve de ça. Mais avec le foot, moi dans mon club, j'ai un coéquipier qui est très grand, voilà, qui fait pas loin des 2 mètres, et il me dit pour bouger sur un terrain de foot, mon gabarit, c'est pas évident, quoi. Il faut le bouger, quoi, ce gabarit-là. Il est attaquant. Donc, il y a des déplacements qu'il fait où il met un peu plus de temps qu'un petit gabarit. Et Yannick, sur une épreuve, sur du statique, sur une épreuve comme l'épreuve de confort, son gabarit, il peut être grand, il peut être athlétique ou quoi. Ça peut être un gros, gros, gros désavantage. Donc, je suis pas étonné qu'il était un petit peu en galère sur ces épreuves-là. On l'a vu un peu plus agile, on l'a vu sur les grappins. Mais voilà, quand il faut... je pense qu'il aurait pu être quand même assez performant sur le parcours du combattant qui arrive étonnamment tard par rapport à la réunification. Mais sur des épreuves statiques ou semi-statiques, Denis Brognard aime bien parler du rapport poids-puissance. Bah, je pense que c'était l'un de ses gros, gros défauts. Malheureusement pour lui, par rapport à son physique. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Enfin, c'est un petit peu dommage, oui et non, parce qu'il s'est rattrapé sur d'autres points. Mais je pense que ça l'a pas aidé et ça a un petit peu faussé l'idée que les autres avaient de lui sur les épreuves.
Moi, pour le coup, Yannick, c'est un candidat que j'ai beaucoup apprécié et ce depuis les premiers épisodes, en fait. Je crois que lors de mon premier podcast, j'avais nommé Yannick en joueur de l'épisode. C'est clairement parce que je trouve que c'est un candidat qui a un énorme capital sympathie, qui a été très désavantagé par la tournure du jeu. Je vais revenir là-dessus plus tard, mais qui, dans chacune de ses équipes, a quand même été tout d'abord fédérateur dans son équipe violette, et ensuite un peu mis en lumière dans cette équipe jaune. Et il était pointé du doigt, notamment lors du conseil avec Olga. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas resté bloqué sur cette dynamique où les deux ne se faisaient pas confiance et c'était fini. On avait vraiment une dynamique qui était super intéressante entre les deux. Les deux montraient par moments, énormément de points de leur personnalité. On ressentait en fait la personnalité de Yannick en regardant Koh-Lanta. Et là où je vais revenir sur donc, la tournure du jeu, c'est que je trouve que c'est super dommage la manière dont le thème de la saison lui a porté préjudice. Parce que c'est un candidat qui socialement a fait le job, qui dans une situation normale ne sort pas parce que Ambre aurait mis son veto, et qui se retrouve éliminé parce qu'il a reçu un vote sur une épreuve qu'il perd en étant premier, mais c'est à peu près la même épreuve qu'il perd quand il reçoit son deuxième bracelet noir. Et moi, je trouve ça un peu injuste qu'on dise à un candidat, tu vas recevoir 2 votes supplémentaires systématiquement parce que sur le statique, t'es pas bon. Alors que déjà de 1, une épreuve de statique, c'est 20% des épreuves de Koh-Lanta, parce qu'il y a les épreuves d'équilibre, il y a les épreuves de force, il y a les épreuves où il faut faire des parcours, il y a les épreuves d'adresse, il y a les épreuves de réflexion. il y a tellement de types d'épreuves et le mec se fait sortir parce qu'il est nul à un type d'épreuve qui est les épreuves statiques où il faut tenir un truc avec ta main. Et pour le coup, il se fait voler son aventure là-dessus, en quelque sorte, parce que le mec n'est pas bon sur un type d'épreuve. Et moi, je trouve ça dommage pour lui, parce que moi, j'aurais voulu voir Yannick aller plus loin, et je trouve que son élimination va laisser un manque, mais j'espère en tout cas que les épisodes par la suite resteront très intéressants. Et d'après le preview de ce qui va se passer, il risque d'y avoir des stratégies encore, donc on espère que ça sera le cas.
Et d'ailleurs, ce sera la dernière question, je pense, de l'épisode que je veux vous poser. Est-ce que d'après vous, les anciens jaunes sont condamnés à se faire éliminer les uns après les autres? Ou là, vu que les rouges, justement, sont un peu remontés du fait qu'ils ont essayé de faire une grosse stratégie contre eux, est-ce que vous pensez que pour eux, c'est foutu et qu'ils vont se faire éliminer les uns après les autres? Solène.
Moi, je pense pas parce que on n'en a pas parlé, mais pendant ce conseil, après le dépouillement, justement, au moment des derniers mots de Yannick, on entend cette discussion qui vraiment était inattendue et qui expliquait peut-être pourquoi le passage du conseil en lui-même était si expéditif, qui est ce moment où Bastien déballe tout et commence à mettre les pieds dans le plat en disant voilà. Vous voyez les rouges, ils voulaient éliminer Maxime. Moi, voilà, j'ai voulu contrer ça. Enfin, on a voulu contrer ça avec les jaunes en faisant cette stratégie d'éliminer Luana. Et Maxime tombe des nues et vraiment tout le monde le savait sauf lui. Donc peut-être que les jaunes peuvent essayer de jouer là-dessus. Une autre porte entre guillemets de sortie pour les jaunes, c'est moi, je pense à travers les joueuses, parce que on a bien vu qu'il y avait un pilier assez important chez les rouges. Avec, alors du coup, c'était un quatuor, on peut dire, avec Pauline, Luana, Géraldine et Ambre. Là, du coup, c'est plutôt un trio, même si Géraldine, on la voit très très peu. En tout cas, de ce côté-là, de la stratégie. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire entre Anne-Sophie, Olga. Et les femmes du côté rouge qui peut-être en ralliant les extra jaunes peuvent renverser la tendance, mais ça malheureusement c'est difficile à prévoir là maintenant tout de suite avec le peu d'informations qu'on a actuellement.
Est-ce que vous, Jade ou Arnaud, est-ce que vous voulez un petit peu abonder?
Ouais.
Oui, vas-y Jade.
Ouais, moi pour je l'ai déjà expliqué plus tôt en parlant en fait des épreuves éliminatoires et comment ça a aidé en fait la majorité à s'en sortir. Pour moi là, il y a clairement pas intérêt pour les rouges de faire quoi que ce soit. Et si les gens jouent bien, les jaunes sont condamnés. C'est clair et net. Parce que quel intérêt pour les hommes rouges de bouger. Donc François, Cousy, pourquoi est-ce qu'ils bougeraient? Ils sont tranquilles. Ambre, Luana, pourquoi est-ce qu'elles bougeraient? Enfin, il y a Maxime à sortir, il y a des épreuves éliminatoires qui arrivent, elles sont quasiment sûres et certaines d'être à l'orientation si ça continue comme ça. Géraldine, bon, je pense pas qu'elle est sûre d'être à l'orientation, mais je vois pas Géraldine faire quoi que ce soit en fait. Et c'est ce qui est dommage. Surtout vu son montage, je pense pas qu'elle va ressortir de nulle part pour bouleverser le jeu, sinon je pense qu'on aurait quand même un peu plus montré. Puis ouais, comme dit plus tôt, il y a Nicolas qui bloque un peu les choses. Parce que Nicolas, il a ses intérêts avec les hommes rouges. Je pense qu'avec eux, il est assez tranquille. Il risque d'aller jusqu'au bout. Moi, en tout cas, je pense que là, ils ont quand même un petit matelas confortable. Il y a Maxime qui peuvent éliminer quand ils veulent. Il y a Jean-Charles qui risque de sortir sur une épreuve éliminatoire. Puis il y a Géraldine qu'on peut éliminer dans l'indifférence générale. Donc là, clairement, je pense qu'on part sur un groupe à 5 finales qui est tout tracé et si rien ne bouge, ça les arrange en fait. Ça serait Ambre, Luana, Fouzi, François et Nicolas qui donnent à Bastien, Anso, Olga très peu de chances de s'en sortir. Pour le coup, Nicolas, lui, il est tranquille. Je pense qu'il va s'en sortir. Il y a zéro souci là-dessus. Mais pour le reste, ça va être très très compliqué. Mais j'espère qu'ils vont s'en sortir et j'espère que ça sera dès le prochain épisode avec un move qu'on nous hype un peu et j'espère que ça va passer.
Bah écoutez, merci à vous parce que c'est un épisode où on a encore dit plein de choses intéressantes, donc merci Arnaud.
Eh ben, merci à toi, Damien. Et merci à Jade et à Solène, évidemment. Merci. C'était un épisode assez sympa à suivre et à faire ici avec vous, donc c'est cool.
Merci, Jade.
Bah écoute, merci Damien, merci Arnaud, merci Solène, c'était très cool. Merci aux gens qui nous ont écoutés et j'espère que ils ont pu profiter de l'épisode.
Et merci Solène.
Bah merci à tous et merci aussi à, je sais pas si on l'a déjà mentionné dans ce podcast, mais merci aux intervenants qui n'interviennent pas et qui nous aident à préparer ce podcast. Malgré tout, ça, c'est un travail qu'ils font, comment dire, pour nous aider à enregistrer ce podcast, et c'est vachement utile et vachement chouette.
C'est clair. Merci.
Voilà, comme j'ai mentionné, notamment bah, Emma qui nous a fait le plan, qui le fait un petit peu toutes les semaines, qui nous aide beaucoup. Puis pareil, c'est des gens qui gèrent aussi un peu l'agenda des intervenants. Donc il y a Gino notamment, Emma aussi. Donc ouais, c'est un bon boulot collectif. En tout cas, qu'autour du feu, et je suis très très content justement qu'on soit arrivé à ça, cet osmose collectif entre nous, donc bravo à tous et à toutes. Et d'ailleurs, je tiens aussi à vous dire qu'on a eu quelques soucis avec notre ancien compte Instagram, et du coup, on a créé un autre. Donc maintenant, si vous voulez nous retrouver sur Instagram, et retrouver des stories, retrouver les liens de nos épisodes, c'est sur le Instagram ADF Podcast, tout attaché, et sans S à la fin. Voilà, je voulais dire ça. Puis bah, quant à nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour l'épisode 11, si je ne me trompe pas, du Totem Maudit. C'était Damien, et je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. Salut!